Il y avait quelque chose parce que, en général, quand on manie ces concepts-là, et quand par exemple on dit, ben nous on n'a pas mérité, hein, si on avait mérité, on reste pas dans le fond de quoi il s'agit. Mérité, à ce niveau-là, lorsqu'il s'agit d'une question. C'est ce que je veux dire. Il y a aussi une banalisation des concepts en plus de vérité. Avant d'aller plus loin, je vous expliquer pourquoi j'ai changé le fond de mon diversité en mettant la nuit et de la nuit à rien. C'est notre règle que certains d'entre vous ont déjà appris, et puis d'ailleurs j'ai une règle qui est connue, c'est que d'après la loi talmudique, on n'a pas le droit de citer par écrit un verset comme il est écrit. Parce que ça veut dire qu'on cite, si tu veux, cette Torah, le cahier sur lequel tu es. Alors, j'ai appliqué cette loi. Non, mais non, non. On n'a pas le droit de dire, alors merde, pas sous, qu'est-ce que tu as c'est un sous. Il faut changer de choses. Quand on dit à par la parole, on change un peu l'accentuation. On n'a pas le droit d'écrire dans un cahier de notes un verset comme il est écrit dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible qu'il est écrit, c'est pas dans ce cahier.
Pour qui le nom? Pour qui le nom?
Pour
qui
le chemin
de
la femme? Chez Maria, par où? Le nom de Dieu, c'est pour la soie. Je pense que moi, c'est le verset libre. Ce que je veux dire, c'est que la vraie règle, c'est que les versets doivent rester dans la mémoire. Si on a besoin d'un cahier pour lire un verset, c'est qu'on n'a pas fait. Vous connaissez cette histoire talmudique authentique, mais vraie. C'est qu'un livre, je crois que je vais vous expliquer. Lorsqu'il y a un enseignement de la vie qui dit « Haf de Rocho, Yahakou de Rocho ». Haf de Rocho, c'est celui qui reprend la tête, un objectif de traduire qu'il y a mal, c'est-à-dire « Haf de Rocho ». Mais « Haf de Rocho », c'est qu'il y reçoit le plus profond. Dans sa tête, il ressent quelque chose. « Haf, Yahakou de Rocho, qui est celui-là ». J'entends une fois quelqu'un qui a inversé la formule. « Haf de Rocho, Yahakou de Rocho ». J'ai compris ce que alors je reviens au problème. Monsieur Néhé a une fois expliqué cela. Alors je vous explique en son âge. C'est que bienvenue, une expression toujours littéraire. L'histoire dans l'air. Par exemple, ça n'est que des expressions en hébreu. Je veux dire, l'histoire, c'est Goudray et Yamin. Les chroniques, Goudray et Yamin. Il y a une autre histoire. Chaque peuple a un temps d'histoire. Et une fois que ce jour d'histoire d'Amélie s'achève, il disparaît. C'est un cas particulier d'Israël qui a son histoire d'Amélie et qui a une dimension de la charité à Amélie après le temps de son histoire et de lui. C'est-à-dire, il y a un cas particulier de l'histoire d'Amélie. Nous avons survécu parce que nous sommes capables de la gagner. Si nous étions comme les autres peuples, lorsqu'une nation est détruite, elle est détruite, nous aurons des peuples. Notre nation a été détruite, mais nous avons survécu dans la dimension de soupape de survie qui s'appelle le vie. Est-ce que c'est ça? Et ça s'appelle ce qu'il y a après les jours. Bien sûr, après les jours, il y a les nuits. Mais c'est pour qu'on parle de vie dans la nuit. Mais il y a Khalid et Amin, c'est-à-dire ce qu'on dit est faux. Ça peut arriver n'importe quand dans ce temps de Khalid et Amin. Khalid et Amin. Visuel. Alors, ça va juste. Alors, le verset habituel des prophètes, et il arrivera à la fin du temps, la Harid al-Amin, c'est toujours introduit par le verset, il arrivera. Nous avons une règle de l'exode, qui est que chaque récit, chaque texte, débute par le verset, annonce un bonheur. Alors qu'un texte qui commence par le verset, et il arrivera, mais je vais expliquer tout à l'heure, il y a juste une forme différente pour dire. Il arrivera, soit vers Aya, c'est le futur transformé en passé, vers Aya. Aya, c'est il est arrivé, vers Aya, il arrivera. Alors chaque fois que c'est comme ça, Aya, il est arrivé, transformé en futur, vers Aya, il arrivera, ça annonce un bonheur. Alors que quand c'est l'inverse, il arrivera, va ici, il est arrivé, alors ça annonce un bonheur. Pourquoi? Donc là, c'est une situation de l'homme. Aïe, c'est passé. En soi, c'est un malheur. Parce que si c'est passé, c'est que c'est, ça a échoué. Si c'est passé, c'est fini. Le fait que le passé soit déjà rendu du passé, c'est ça le malheur. Parce que c'est suffisamment clair. Ouais. Et là, nous sommes en pleine mentalité. Parce que Moïse met l'âge heureux au passé. Alors pour nous, le passé, c'est évidemment pas l'âge heureux. Pourquoi? Parce que le temps a continué. Si le temps a continué, c'était passé, le passé n'était pas réussi. Okay. C'est-à-dire que la sensibilité juive perçoit le passé comme de l'or du regret, je sais pas comment dire. Mais pas dans le sens littéraire banal. On dit en arabe, les fesses mains. Quand on était en arabe. Et alors, mais ça a un autre sens en français. Le passé est révolu. Tandis que le futur en soi est porteur de bonheur. Pourquoi? Parce que le futur est porteur d'avenir. Parce que dans le futur, tout peut s'arranger mieux. Dans le passé, c'est déjà comme si c'est fini. Monsieur, bon, le problème, parce que simple que ça, c'est beaucoup plus long. Et alors, nous avons une caractéristique de la grammaire hébraïque, qu'un passé peut se transformer en futur. Mais ailleurs. Alors, si déjà le futur, c'est un bonheur, un passé qui peut être rejoué dans le futur, en plus forcément. Et c'est pourquoi le Réaïa est le signe de Simcha, de la joie. Inversement, c'est l'avenir en tant que tel, porte le bonheur. Alors un avenir devenu passé, ça c'est le compte du malheur. Vous suivez? Bon, alors le verset dit Réaïa, 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 et pour l'entrée de ce texte, il est transformé, et il dit Réaïa, 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 et ce qui est arrivé à la fin du temps, ça a été une catastrophe. Et comprenons-le, travers ça. Ça aurait pu être Réaïa, Réaïa. Finalement, les prophètes ont souhaité que ce soit Réaïa qui est arrivé. C'est vrai. C'est vrai. Parce
que dans le livre, il y avait la hache de rose.
Par exemple.
Et de ça, je pense que la Bible de l'Église, il y a un peu.
Non, Réaïa l'a fait. Non, un des exemples, c'est la démocratie. Pour dire que chaque fois qu'un texte commence par Réaïa, ça indique un malheur, et dit exactement ce qui s'est introduit par Réaïa, biné. C'est-à-dire, c'est gâté, vraiment. C'est arrivé en ce temps-là. Et on nous le raconte, parce que nous devons savoir ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que nous pas retomber dans les choses. Alors là, c'est une objection de la Gemara, sur cette règle, avec ce verset. Et comment la Megillah d'Esther commence par Vaïri Bimé, alors qu'elle raconte un bonheur, la délivrance de la communauté. Et la Gemara répond, on nous dit que le prix qu'on a payé, c'est Esther. Oui. Et c'est quoi Esther? Par royauté. C'est-à-dire la royauté a quitté Israël et rentré chez les Goïm, ça a été le prix de ce qu'on fait dans le pays, c'est sûr. Bon. Alors, en tout cas, je reviens maintenant au moment de l'analyse que nous trouvons. Alors, voilà ce que nous avons en projet. Je vais vous citer les différentes thèses que nous allons aborder. Et nous allons décider ensemble. Si vous voulez commencer par la dernière, ou, dans notre ordre, de commencer par les thèses qu'on va critiquer avant d'arriver à celle qu'il faut éduquer. Alors, la première thèse, je l'ai appelée la thèse du paganisme hébreu. Je vous l'explique très brièvement, c'est ceci. C'est-à-dire, l'illusion, l'erreur qui vous empêche d'intégrer un événement comme la Shoah dans la tradition juive, c'est tout simplement le monothéisme. C'est-à-dire, ce qu'on n'arrive pas à intégrer, c'est que le même Dieu, qui est le Dieu du bien, ait pu permettre dans son monde un mal aussi absolu. C'est-à-dire, oui, c'est ça la famille. Hein? Et par conséquent, c'est que les Hébreux de l'option monothéiste se sont trompés, c'est une illusion, et il faut retourner à ce que serait un paganisme hébreu, c'est-à-dire qu'il y aurait des divinités du bien et des divinités du mal. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quitter l'identité juive, hébraïque, je dirais, sa culture, mais de réaménager de telle sorte d'intégrer l'événement. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez cette... Il y en a beaucoup d'adeptes, tant en Israël, qu'en diaspora, avec en plus un problème supplémentaire qui se greffe, c'est que ceux qui pensent comme ça dans la diaspora et qui tentent de reconduire l'identité juive devenue païenne en tant que juive, pour des motifs de fierté et pour un motif assez profond qu'un des auteurs que j'ai cité formule très bien, c'est Akanaï, qui dit ceci: si nous abandonnons l'identité juive après avoir renoué la foi juive, c'est Hitler qui a gagné. Or, il ne faut pas qu'il gagne. Il faut que nous restions juifs, même athées, mais juifs. Même païens, disons les juifs. Vous comprenez le risque? Le risque supplémentaire, c'est deux cultures juives païennes. Une qui serait nationale israélienne et une culture cosmopolite. C'est un risque supplémentaire de ce problème. Parce que malgré tout, bon, ben, j'ajoute pas de l'analyse de base à ce moment-là. Voilà donc cette cause. On pourra préserver notre identité culturelle compte tenu de la Shoah que si on abandonne non pas le message de la Bible, mais sa lecture monothéiste. Lisons-la au niveau d'un paganisme de au moins le dualisme de type masdéen, de type iranien d'antiquité, c'est-à-dire Zoroastrien, c'est-à-dire le dieu du bien et le dieu du mal. Et on oublie, mais ça on verra la fin par la suite. Je ne parle pas le dieu du bien et le dieu du mal, les forces du mal, les forces du bien. Et ce n'est pas la faute, dit ce tenant de cette thèse, les forces du bien, si elles ont été plus faibles que les forces du mal. Plus il y a d'hommes du bien, plus les forces du bien triomphent, plus il y a d'hommes du mal, plus il y a des forces du mal qui triomphent. Mais le monothéisme, lui, ne suffit plus à expliquer ce qui s'est passé comme ça s'est passé. Tant que on avait affaire à l'idée, tant que on avait affaire à l'idée d'un dépassement d'un peu de mal et d'un peu de bien dans l'idée d'un Dieu unique, on pouvait peut-être rester dans cette idée. Mais maintenant, on a vu le mal absolu et imputer le mal absolu au Dieu du bien, ça on ne peut pas se croire. Vous voyez à peu près quoi ? Je crois que c'est le piège dans lequel on est fait tomber avec l'expression le bon Dieu. Le bon Dieu est un faux Dieu. Bon, ça nous verrons pendant la. Évidemment, et si on nous vend ça à un niveau apparemment élémentaire, comment le bon Dieu avait fait faire ça? Vous voyez? Alors le bon Dieu éclate dans l'histoire, dans le sens où c'était donc qu'il y avait une erreur sur les fondateurs de l'hébraïque. Est-ce que les fondateurs de l'hébraïque n'étaient pas au courant de cela? Et nous verrons qu'ils étaient au courant de cela. Parce qu'ils avaient traversé des catastrophes analogues. Et c'est en dépit des catastrophes qu'ils avaient traversées qu'ils ont fondé l'hébraïsme hébraïque. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est joli, hein. Mais le monothéisme hébraïque est précisément, vous le suivrez dans mes études pour midi, surtout face aux zoroastrismes, c'est-à-dire à cette religiosité qui intégrait qui est dualiste, qui elle intégrait des événements comme la chose. Voilà donc la première thèse. La deuxième thèse, je l'ai appelée la Shoah Keola. C'est la thèse qui apparaît avec la définition holocauste. C'est-à-dire qu'il y a, il y aurait eu là un sacrifice d'expiation. Alors on est dans un tout autre monde, hein, que précisément, c'est un honneur, un privilège pour ce peuple monothéiste d'avoir été, lui, le sacrifice d'expiation de faute de l'humanité. Et oui, où ça s'inscrit? Et là, nous aurons à critiquer le fondement théologique de cette thèse, qui se trouve en particulier chez les chrétiens d'abord. Et j'aurai à vous lire et à vous analyser un article du Père Dubois, qui dit cela en propre terme et de façon très claire, c'est que le modèle, c'est le sacrifice d'Isaac. Et un sacrifice d'Isaac réussi, c'est-à-dire la passion du Christ. Et vous revoyez, vous voyez à peu près, si vous voulez, la constellation de catégories qui apparaît là. C'est-à-dire le genre de perspective qui apparaît là. Alors nous aurons à critiquer cette thèse à deux niveaux. D'abord la fausse lecture du sacrifice divin. Ensuite la distance à prendre avec le mythe de la passion du Christ, l'implication juive de ce mythe païen, si vous voulez, et ça c'est un premier niveau. Et ensuite de critiquer la position des juifs pieux qui parlent comme ça. Parce que vous entendrez aussi des rabbins dire ça, que la Shoah, et ils le disent du devant d'une piété sincère, bien que naïve et éveillée, si j'ose dire, que la Shoah, eh bien, c'est, ça s'attache à l'histoire des Juifs, à l'histoire du peuple d'Israël, puisque c'est le peuple d'Israël qui est le porteur du sacrifice de l'autre Juif. Et nous aurons donc à critiquer. Et j'essaierai de montrer en quoi une telle thèse, même lorsqu'elle contamine des milieux juifs, est d'imprégnation chrétienne et anti-juive. Comprenez. En tout cas, je peux vous citer tout de suite une des phrases du Père Dubois. Madame la Révolte, quand j'étais lié à la table de la Révolte, je vous remercie en français après. Il va y avoir Rak et Ara Hilaï, Yerola le Faresh, et Nivana à 300 d'hommes talis sur la Shoah, Réa Arazo, Amourenou à notre rime, Overet de Rech à Mysterim sur la Bouddha. Et ça veut dire ceci. Seul un éclairage supérieur peut expliquer la signification transcendante de la Shoah. Et cet éclairage, cette révélation pour nous les chrétiens, passe par le mystère du Golgotha. Golgotha. Le mystère de la passion. Et j'ajoute encore une antiphrase. Derech yitzurav shel ha'am ha'yehudi sheyigya'a le'siya ba'shoah me'afsheret lanu havana tova k'tzat yoter shel ha'nisturim shel ha'tzav. Et ça veut dire, c'est par le biais des souffrances du peuple juif qui sont arrivés à leur paroxysme dans la Shoah, que nous est donnée la possibilité d'une compréhension un peu meilleure du mystère de la croix. C'est-à-dire que, voilà comment. Je vais vous dire d'ailleurs que Père Dubois, je vais vous donner cet article, a écrit cet article avec énormément de précautions de langage, énormément de délicatesse de vocabulaire, en s'approchant vraiment de ce problème avec piété et une très grande politesse, délicatesse, c'est le mot que je cherchais, mais ça ne change rien au fait qu'il y a là une contamination des deux thèmes sur des bases fausses. Premièrement, la lecture du sacrifice d'Isaac, tout simplement parce que dans le sacrifice d'Isaac, soi-disant, le sacrifice n'a pas eu lieu, tandis que le sacrifice qui a eu lieu, c'est le mythe de la passion, et de dire, voilà, le vrai Dieu, comment il travaille pour sauver le monde. En sacrifiant son fils bien-aimé. Alors vous les juifs, soyez fiers d'être les fils bien-aimés. Oui, je vous ai parlé. C'est paru dans une revue sur l'Holocauste, éditée par le CIDIC, qui est le centre de documentation de Rome, et dans l'édition française. Centre de documentation des chrétiens, pour le secrétariat de l'Unité des chrétiens. Et je vous citerai, je vous apporterai d'autres livres, plus récents encore, où ça va de soi qu'on parle comme ça. On parle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une signification transcendante, importante, positive, religieuse, profonde à la Shoah, c'est un sacrifice expiatoire, c'est un holocauste. Alors quand les chrétiens parlent comme ça, alors le postulat de leur propre théologie va de soi. Mais quand des juifs parlent comme ça, c'est très dangereux. Parce que les goïms n'attendent que ça. Que nous soyons la deuxième. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a une espèce de piété subjective qui vient du dedans de la piété naturelle simple, non éclairée par l'étude, et surtout en ambiance chrétienne, qui fait qu'on est tombé dans des catégories que, à mon sens, sont des catégories de névroses. Mais ça, je reviendrai en détail. C'est la théologie névrosée. Mais pour revenir à ce problème, c'est qu'on croit que puisqu'il n'y a pas d'explication, et puisqu'on a quelque part dans le crâne cette idée que c'est le juste qui peut expier les fautes du méchant, alors on tombe de proche en proche dans cette idée. Et bien voilà, comment a joué l'alliance entre Dieu et Israël, c'est qu'au moment où l'humanité avait besoin d'un sacrifice expiatoire, c'est nous qui l'a choisi. Amen. Allez, votre métier. C'est clair, c'est lui. Ça, c'est la deuxième thèse. La troisième thèse. Bien sûr, non, il n'y en a pas. Il y a peut-être dans l'hébreu chassidique. Non, mais 30 ans d'interview, on traduit le terme grec. Je veux dire, les catégories hébraïques qui véhiculent ces notions-là ont une toute autre portée. Par exemple, en hébreu, on dit kadosh. Et en hébreu, on dit kadosh. Et dans la dimension philosophique, on peut traduire donc transcendant. Mais en tout cas, pour vous savez, les juifs de notre temps, ont un énorme travail de d'hébraïsation de leur identité à faire, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, un hébreu peut penser les grecs, mais nous étions des juifs qui pensions les grecs sans connaître l'hébreu. Vous avez compris? Alors quand on apprend l'hébreu, on projette dans l'hébreu le grec. C'est ce qui arrive dans les villes familles. Hein? On croit qu'on fait de l'hébreu, et puis on fait du grec.
En hébreu.
Alors, c'est bien vous montrer. En tout cas, pour j'ai encore dit à mon dernier voyage en France, un hébreu qui parle une langue étrangère, c'est un hébreu qui parle une langue inconnue. Et alors, il est enrichi par cette langue étrangère, il la comprend, mais il ne faut pas oublier que c'est un hébreu qui parle une langue étrangère. Le juif a cru que cette langue étrangère, c'était sa langue à lui, et les goïms qui l'a parlé, lui avait pris. Imaginez l'étonnement des juifs algériens lorsqu'ils se sont aperçus que les Français parlaient le français. Alors là, la réaction a été Et vous avez vu quel accent ils ont, les pauvres. Non, je plaisante à peine. Quand j'ai dit les Français, ça veut dire les vrais, les Goy. C'est à eux le problème. Mais je vais vous raconter cette anecdote que j'ai racontée souvent dans le premier séminaire que nous avons eu, qui m'a beaucoup frappé. C'est l'histoire d'un juif polonais qui s'était sauvé de Pologne pour se réfugier en Allemagne, dans la République allemande en Hitler. Et puis, vous savez ce que c'est que la promotion sociale d'un juif venant d'un ghetto. Quelques années après, il était professeur à l'université de Berlin, citoyen allemand. Imaginez les Tunisiens ou les Marocains arrivant à Paris, très vite. Et alors, c'est vrai. Et alors, les années 30 d'Hitler arrivent. Et ce juif avait un ami, Goy, un Allemand. Il a dit, tu sais, c'est mauvais pour vous, les Juifs, sauf toi. L'autre, aveuglement, comme on a dit, c'est vrai que je suis citoyen allemand, protégé par les lois allemandes. Imaginez la naïveté absolue, hein, de cet aveuglement. L'autre qui insiste, il dit, mais attends, écoute, tu te rends compte qu'est-ce que c'est. Moi, je suis allemand, je suis. Il dit, mais moi aussi, je suis allemand. Il dit, ah, toi, tu es allemand. Alors, si toi, tu es allemand, il s'adresse au juif polonais, si tu es allemand, moi, que je suis. Et l'autre, naïvement, il répond, toi, que Goy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, c'est le juif polonais qui est allemand, et l'allemand, qu'est-ce qu'il est? Goy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, qu'il y a là. Non, si tu as bien suivi, à quoi je pense? C'est catastrophique. Parce que la suite de l'histoire, c'est résultat, fureur de l'Allemand. Souvent, c'était le fureur, pas la fureur. Imaginez que ça peut rendre les Allemands fous. Et compatibles. Mais pas seulement en Allemagne. Pas seulement en Allemagne. Oui. Non, écoute, quand un juif dit qu'il est juif, et que l'allemand, en tant qu'allemand, est goy, c'est très clair, à condition qu'il y ait une politesse aussi. Mais quand le juif commence à dire que c'est lui l'allemand, et que l'allemand est un goy, c'est ça la fureur de l'allemand. Vous comprenez? Et c'est très dangereux. Or, imaginez, que ça veut dire. Le. Non. Non, elle a très bien compris, c'est vous qui n'avez pas compris. Elle a très bien compris. Ça veut dire qu'il y aurait ce risque, s'il ne s'explique pas, de le frustrer, cet Allemand, de la possibilité d'être juif. Mais ce n'était pas le fond du problème. Ce n'est pas le niveau du problème, c'est qu'il a frustré de son identité allemande. Alors, ça, je paraphrase, alors l'Allemand continue en disant qu'on va te montrer que c'est un Allemand. Vous savez, c'est arrivé déjà en Espagne, pour les juifs par la nuit, la même chose. Bon, ce que je veux dire, et il faut en prendre conscience, c'est que c'est la même chose à Paris. Les Français sont très gentils, mais imaginez qu'une scène pareille se passe à Paris. Non, alors qu'est-ce que ça peut déclencher? Imaginez, après tout, les Français peuvent aussi être francis. Vous vous rappelez que c'était les francis? Bien. Alors en tout cas, pour revenir... Non, c'est pas là-dessus. Non. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un texte qui se présente dans un style d'une politesse positive considérable. C'est pas cette utilisation-là. Pas du tout. C'est pas la thèse des chrétiens fascistes devenus nazis par rapport aux juifs en disant, eh ben voilà, c'est comme ça que Dieu se venge. C'est pas ça. C'est vraiment la thèse expiatoire. La thèse expiatoire. Pardon ?
C'est pas pour mon chrétien, c'est chrétien. Je l'ai dit, c'est aussi un politique. Je ne veux pas dire le nom, mais quand on dit qu'un soldat est monté sur l'hôtel de la patrie, est-ce que
deux pour ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument pas. Tu as bien fait. Non, ça n'a rien à voir. Tu as bien fait de poser la question et on s'en occupera à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Parce que, oh là,
Auquel va Nirkaz, va Mizbeach, va Yelechouch, va Nirkaz. Mais ici, c'est un massacre. Ce n'était pas du tout la victime consentante pour que ses mérites servent à évacuer le mal du monde. Ça, c'était un assassinat crapuleux qu'on veut nous présenter comme étant holocauste. C'est très différent, ça n'a rien à voir.
C'est peut-être lié à ce que vous avez dit par rapport à ce vase progressif. Le vase progressif.
Quel?
Je pense que les chrétiens, après toute la part des Romains, ils ont une pensée linéaire, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé pour toujours. Donc, le péché originel, maintenant, ils sont liés à l'humanité, alors on prend un agneau, un sacrifice, un Christ, un juif. Ça vient de cette différence des conséquences.
En tout cas, c'est certain que c'est lié, mais. C'est le fait que pour la conscience chrétienne, telle qu'elle est expliquée par Dubois ici, mais beaucoup d'autres auteurs ont écrit des livres entiers là-dessus. Pour cette conscience chrétienne, il n'y a pas de problème. Ça ne met pas en question la foi biblique de conscience chrétienne. C'est les juifs que ça gêne, les juifs qui n'avaient pas admis les postulats de la foi chrétienne. Mais le vrai juif, c'est-à-dire le chrétien, ça ne le gêne pas. Simplement, il pleure avec. Il se met à genoux et il pleure, mais ça n'est pas en question sa foi parce qu'en fait il croit. C'est le juif qui s'agit, vous comprenez ? Et c'est pourquoi subtilement il indique les juifs qui veulent s'en sortir, donc à devenir chrétien. Il ne le dit pas, mais c'est mal. Voilà la deuxième thèse. Et il n'écrit pas mélodie. Bon. C'est extrêmement tragique, dramatique. C'est-à-dire qu'au moment où la conscience chrétienne aurait pu risquer un revirement de voir ce que sa propre mythologie engendrait, elle se nourrit d'une théologie qui récupère l'événement. Parce que c'est clair, c'est que je dis. Donc c'est extrêmement dangereux, parce que si c'est vrai que c'est ça que les chrétiens croient, nous sommes en danger. Chez eux, c'est pas seulement chez eux, chez nous. Nous continuons à être en danger. C'est évident. Bon. Je me souviens d'une petite anecdote que je vais vous raconter. J'étais au menu militaire pendant la guerre contre les Allemands. Quand on sonne la vue, on menu la lutte. Et j'avais comme ami le monnier catholique. Et un soir, d'ailleurs on s'était appris par cœur les prières l'un de l'autre pour essayer d'aider les oies réciproques. Et puis, un soir, en Bavarde, en Alsace, je très loin de la rappelle, et je crois que c'était autour du Mirabel. Et l'alcool alsacien. Alors il me disait qu'au fur et à mesure qu'il découvrait à quel point les Juifs souffraient, étaient en train de souffrir, parce que nous, à ce moment-là, on découvrait étape par étape ce qui se passait, on découvrait ça. Et alors, il me disait qu'il était très inquiet, parce que si nous, les Juifs, nous souffrons plus que les chrétiens, c'est peut-être que nous sommes plus Israël que. Vous voyez, c'est dans ma raison, je crois. Et qu'il était vraiment inquiet. Elle dit, Dieu préserve, peut-être vous avez raison, vous êtes plus crucifié. Okay. Peut-être ça vous dit. Vous voyez dans quelle mentalité ça va, et c'est pourquoi je reviens à cela. La première partie de la question, en tout cas, c'est d'autant plus dangereux lorsque nous avons une telle thèse chez les auteurs juifs ou chez les rabbins. Vous comprenez maintenant, ce que tu as cité, Al-Kiddush Hashem, c'est très différent, et là, j'ai en bas. Mais ça, c'est pas des rabbins qui parlent comme ça. Bon, mais ça veut dire qu'ils nous cherchent. En tout cas, je vais te dire. Là, de toutes les façons, c'est différent. Là, c'est différent. Parce que la valeur qui est visée est positive, tandis que là, elle est négative. Mais surtout, c'est que, et ça, nous allons étudier sur terre, c'est le problème des Issourim. C'est-à-dire que l'attitude religieuse que ça représente ici, c'est que Dieu souhaite les souffrances a priori en vue que ça puisse être expiation des fautes parfois d'autres. Okay. Tandis que jamais nous ne trouvons dans les sources juives que la souffrance a priori est souhaitée. Ce n'est que si elle arrive pour les raisons pour lesquelles elle arrive qu'elle est sanctifiée a posteriori. C'est très différent comme attitude. Et à la cause de cette sanctification, il est évident qu'elle est positive en cela. Même avec cette exception. Ben justement, c'est ce à quoi je pense. Elle, a posteriori, par exemple, toutes ces victimes de la Shoah sont définies de façon claire par la halakha comme ceux qui sont morts al Kiddush Hashem, c'est-à-dire on le considère comme les Kedoshim. Ken? Mais Dieu n'a pas créé un monde où on cherche à nourrir comme ça pour devenir Kadosh. C'est-à-dire si ça arrive, quelle que soit la raison pour ça arrive d'autre part, a posteriori, c'est sanctifié. Ouais, parce que c'est assis. Mais c'est jamais recherché, a priori. C'est-à-dire, par exemple, il n'est pas question que nous ayons à provoquer une guerre pour pouvoir mourir en héros. Seulement si la guerre nous est imposée, alors on meurt en héros. Mais c'est a posteriori. Vous voyez à peu près. Ça, c'était la deuxième thèse. La troisième, donc, c'est la thèse Holocauste, ça se pédit là. La troisième thèse, c'est une thèse beaucoup plus pénible à exprimer. C'est une thèse de milieu piétiste, juif, qui consiste à dire, c'est arrivé à cause de nos fautes. Nous n'avons pas été des bons juifs, Dieu nous a punis. Bon, c'est formulé de façon un peu schématique, c'est pour vous montrer à quel point, à quel niveau ça se passe. Et vous avez de grands rabbins qui ont écrit de grands livres là-dessus, en nous disant, ben voilà, voilà qui est notre Dieu. Celui qui nous punit avec ça, si on n'est pas sévère avec le chemin à vous. Or, on a beau citer des versets de la Bible où ça semble dire ça, ça ne veut pas dire ça, on les étudiera. Okay. Il y a une disproportion colossale et qui n'explique pas pourquoi c'est à ce moment-là que notre histoire s'est arrivée, alors qu'on ne se tenait pas bien depuis 2000 ans. À la limite, vous devez dire les choses de façon caricaturée pour qu'elles apparaissent en même temps à l'écran. Ça veut dire, on a laissé en contact une fourchette halavie avec une cuillère bassarie, alors Dieu nous a envoyé Hitler. Vous voyez le genre de niveau, est-ce que c'est clair? C'est très... Oui, ça se passe à ce niveau-là. Parce qu'en fin de compte, ça va à ce niveau-là. Et ça veut dire les fautes de piété. Les fautes de piété, on n'a pas mangé cachère, on a dansé au mariage, ou des machins comme ça, alors Hitler est venu. Vous avez compris? Et faites attention, ça fonctionne comme ça, dans beaucoup de milieux piétistes. Et alors, nous verrons à critiquer cette thèse, mais je vous la cite pour mémoire, en tout cas, à tel point elle est énorme. Mais il faut se méfier de ça. La thèse suivante, qui est beaucoup plus délicate et à exposer, à critiquer, c'est...
La thèse qu'on prend tout à l'époque, c'est la nature de pays qui commence à apparaître, et avec citation de...
Non, j'arrive, ça c'est notre thèse. Non, ça consiste à dire « baron de fou, sec ». C'est-à-dire, vous n'observez pas le chouran à roue comme il faut. Attention, la sanction, c'est... Par exemple. Alors, vous voyez à quel point il faut dégager ces options de leur subjectivité de piété individuelle. Parce que c'est tout simplement un envahissement de la sensibilité de piété individuelle sur des problèmes dont les notions sont beaucoup plus graves que cela. Je pense que c'est clair. Si vous voulez, le risque, c'est finalement de faire un bon Dieu monstrueux. Et alors, c'est assez infantile de ne pas percevoir le blasphème que ça représente. Je pense que c'est... Bon. La thèse suivante, c'est que la Shoah était le prix à payer pour l'État d'Israël. Et la Shoah, que Mechir Akuma. Et ça, vous l'avez trouvé aussi. Vous avez trouvé cette thèse assez répandue. Et là, dans tous les cas, quelle que soit la méthode qu'on va choisir, je la critiquerai assez précisément. Parce que d'abord, ça contredit les faits. L'État d'Israël se préparait bien avant la Shoah. Et aucune des conséquences de la Shoah ne nous a fait obtenir l'État d'Israël. Un seul petit exemple, l'Exodus. Les Anglais étaient parmi les principaux alliés qui ont gardé la guerre contre Hitler. Or, si l'argument était pris de pitié et de compassion, de voir ce que les Allemands avaient fait des Juifs. On leur a donné un petit coin du Moyen-Orient pour avoir leur petit État. On ne comprendrait pas une conduite comme l'Exodus. L'Exodus, c'est les Anglais refusant, rescapés des camps, de rentrer dans la vie. C'est bon, les camps. Et les camps en Chypre. Et plus que les camps en Chypre, le fait d'avoir ramené, les ramener à Hambourg. Et dans des camps, et dans des cages à prisonniers à Hambourg. Alors, ça ne tient pas de but au niveau des faits. La vérité, comme nous allons le voir, c'est que la Shoah a réussi à faire que l'État d'Israël n'est que ce qu'il est, c'est-à-dire tout petit. Tout petit dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, on a voulu tuer le peuple qui allait faire cet État. C'est tout à fait autre chose. Bon, c'est clair. Enfin, on reverra ça plus en détail. Alors là, nous sommes, je crois, à la quatrième thèse déjà. À la quatrième, donc j'arrive à la cinquième. La cinquième, c'est la thèse des juifs religieux antisionistes, et c'est Baravon à Sionis. C'est-à-dire, c'est la punition du sionisme. Et ça, donc la thèse derrière, c'est quoi? La punition du sionisme, et nous verrons à étudier ce chose-là dans les sources. À quel point c'est contradictoire avec la foi juive, et qu'il y a là à expliquer la position de ceux qui ont cette thèse. C'est-à-dire, il faut les expliquer, il faut élucider qu'est-ce qui leur arrive pour dire des choses aussi énormément opposées à la foi juive elle-même. Je ne vais pas rentrer dans les arguments de la critique de la religion. La sixième thèse, qui me paraît, comme je l'ai dit la dernière fois, la plus solide au point de vue philosophique, c'est même théologique, c'est la thèse qui consiste à dire c'est un des risques de la liberté que Dieu a donné à la créature. Tout simplement. C'est la liberté donnée à la créature, c'est quelque chose de sérieux. Et par conséquent, le risque de violation de liberté est lui aussi très sérieux. Ça peut aller jusque-là. Est-ce que c'est clair? Alors, nous verrons que philosophiquement, c'est une thèse extrêmement solide. Mais religieusement, de nouveau, ça nous fait un bon Dieu monstrueux. Okay. Est-ce qu'il ne pourrait pas inventer une liberté qui n'aille pas dans ces risques-là? Et surtout, ça contredit la foi juive elle-même. Et je l'explique très rapidement pour vous voir les proportions du sujet. C'est que Dieu a donné liberté à son monde, mais il se réserve le droit d'intervenir s'il juge que son monde est en danger. C'est ce qu'on appelle le pikuah nefesh. C'est-à-dire, si Dieu, pikuah nefesh. C'est-à-dire, selon l'enseignement de la Bible, la liberté donnée à la créature n'est pas absolue. C'est une liberté de sursis. Ça veut dire, et l'exemple que je vais vous prendre, c'est le roi du Shabbat. Dieu garantit la liberté du monde, de la créature, par son Shabbat. C'est pourquoi le terme qui est envoyé par la Torah, c'est de dire Shabbat va une approche. Dieu entre dans le Shabbat pour que l'histoire de l'homme libre commence. C'est clair. Or, d'après les lois du Shabbat, s'il y a pikuah nefesh, si l'homme est en danger, on suspend le Shabbat pour sauver l'homme. C'est clair. Par conséquent, si Dieu est en Shabbat pour que le monde soit libre, il s'est réservé le droit d'intervenir s'il y a pikuah nefesh. Le problème serait, pourquoi n'est-il pas intervenu? Mais ça va chercher ailleurs que la réponse « Ah, il s'est interdit parce que la liberté. » Ça, c'est pas juste. Ça, c'est clair. Ça, c'est la sixième. Bon, et il nous restera la septième thèse. Il y en a une huitième, d'ailleurs, que je dis que pour mémoire, je vous la dirai après. Mais la septième thèse, c'est là où j'aurai à vous citer le texte de la Gemara qui se base sur les versets des prophètes et qui explique ce que j'ai indiqué rapidement avec le livre de Emma Vanim Semecha, la thèse suivante. Les prophètes que les rabbins du Talmud nous ont donné des signes auxquels on reconnaît qu'une Shoah se prépare parce que la fin de l'exil arrive et qu'on reste dans l'exil. Okay. Et or, on n'a pas diagnostiqué les signes et on a été pris au piège. Mais le piège était décrit à l'avance avec tous les signes correspondants. Vous allez m'objecter, mais pourquoi on ne parle de ces textes qu'après quand c'est prophète? Alors notre problème, justement pour nous qui venons après, c'est de poser la question à ceux qui étaient avant. La question me concerne très. Et je me citerai des témoignages qu'en ce temps-là, il y avait des rabbins qui ont démontré cela. On les a fait taire. En particulier, un des plus grands d'entre eux, dont j'ai aussi le privilège d'être l'élève de son fils, le Rav Ashkenaz. Le Rav Ashkenaz, qui est un rabbin de Varsovie, qui a lancé le signal d'alarme dans les années 20. On l'a persécuté, mis au banc de la communauté, il a fait ça, il y a tout seul dans des conditions extrêmement difficiles, et tous les rabbins de Varsovie l'ont accusé d'être le pire des hérétiques. Imaginez un rabbin chez lui. Et finalement, c'est lui qui avait raison, et c'est lui qui a eu tort. Il a compris que c'était un autre. Alors, vous me dire donc quel est le problème, c'est une problématique que nous étudierons sur texte. C'est-à-dire d'abord que l'éventualité de la Shoah est connue de l'enseignement du monothéisme hébreu. Et le point précis de notre étude sera comment considérer la relation entre Dieu et son monde avec une éventualité pareille. Pourquoi qu'est-ce qui explique qu'un événement pareil puisse arriver, Dieu étant un, et nous ayons prévu que ça peut arriver. Je veux dire, encore d'une autre forme, que je ne veux pas trop anticiper, comment comprendre que dans le monde que Dieu a créé, c'est avec cette clause éventuelle, à cause de quoi? À cause de quoi? Et alors, toutes les réponses que nous avons données jusqu'à présent, ça ne fait pas de poids. Ça ne fait pas de poids. Ça veut dire que c'est un bon Dieu fictif dont on avait parlé jusqu'à présent, et on a fait jouer aux marionnettes avec lui-même. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus important qui fait que, à certaines occurrences, lorsque Israël reste dans l'exil trop tard, voilà ce qui arrive et pourquoi, c'est ça qu'il faut étudier. Bon. Il y a une dernière position que je dis que pour mémoire, et qui est assez bien représentée par les visuels, si on en parlait dernier cours, et c'est ce qu'on appelle en hébreu shtika ro'emet. Ça veut dire le silence grondant. Ça veut dire on se tait, parce qu'on ne peut pas parler de ça, mais on en pense pas moins. Se taire en colère. Et elle est assez répandue dans les milieux pieux israéliens ou à l'étranger d'Israël, qui n'osent pas remettre en question leur fidélité au judaïsme comme religion. Dis donc, pour ne pas risquer la blasphème, se taire, mais se taire en criant. Je ne sais pas comment dire. C'est ce que j'ai indiqué en disant que ce silence d'Israël, ça fait déjà toute une bibliothèque. Oui. Mais un cri de silence, ça fait quand même une relève. C'est ça, cri de silence, ça traduit le shtika ro'emet. Ou à la rigueur, on fait un livre. Mais on ne fait pas. Et une chose qui me gêne parfois, c'est de voir ce qu'on fait de grandes soirées, de grands banquets, parfois, de banquets, pour donner un prix à un auteur qui a écrit sur la Shoah. On fait un banquet pour donner un prix à un auteur qui a écrit sur la Shoah. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit pour se taire. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui gêne là-dedans? Bon. Alors, en tout cas, ça, c'est une position que je décide que pour mémoire. Et alors, reste notre question, est-ce que vous préférez qu'on commence par la thèse du Talmud ou qu'on commence par les autres? Non, mais... Non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les étudiera pas. C'est une question d'ordre de l'étude. Ça va nous prendre au moins 2 mois. Enfin, c'est ça. On n'est pas. Donc. Allez, d'accord. Alors, on commence par la minute. Mais, en tout cas, en tout cas, je vous demande instamment d'essayer pour ce cours-là, même si ça vous coûte, de ne pas manquer tant qu'on est dans une étude, parce que sinon, je conduis, je vous demande à quelqu'un qui aurait manqué de ne pas continuer à venir, parce que, à moins que, cas de force majeure, les Méloïs, les étudiants. Il y a 2 personnes qui sont arrivées en retard et que je n'ai pas inscrit, qui voulaient venir me donner votre nom. Thank you.